Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans RTL Soir avec le 11 mai en ligne de mire. Oui, mais pour qui et comment? On va de nouveau vous accompagner jusqu'à 20h et tenter donc ce soir de répondre à toutes les questions qui se posent depuis l'intervention d'Emmanuel Macron, suivie hier soir par près de 37 millions de personnes. Le 11 mai, pour qui? Les élèves des écoles, collèges et lycées, progressivement, sous certaines conditions, annonce qui fait déjà débat. On en parlera dans trois quarts d'heure avec Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Et puis pour qui? Eh ben pas pour les hôteliers, les restaurateurs, l'industrie du tourisme est chaos et ne voit toujours pas la lumière au bout du tunnel. Premier invité d'RTL Soir dans 20 minutes, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Et puis le 11 mai, comment? Avec des masques, avec des tests? L'infectiologue Christian Perron nous dira ce qu'il préconise. Et puis à 19h30, le retour des débatteurs et des polémistes d'RTL Soir. On va de nouveau refaire le monde. Même s'il a bien changé depuis quelques semaines. RTL Soir, c'est parti avec vous Dominique Tenza, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Un retour à l'école progressive donc, qui risque bien d'en décevoir certains. La rentrée, oui mais pas au prix de la santé, prévient Édouard Philippe. Verbalisée parce qu'elle venait rendre visite à son mari résident d'un EHPAD, elle lui faisait coucou derrière la fenêtre, 135 euros d'amende, vous l'entendrez dans ce journal. Amazon, rappelé à l'ordre par la justice, le groupe ne pourra plus livrer que des produits dits essentiels, la sécurité dans ses entrepôts n'est pas suffisamment respectée. La Libye, également ravagée par la guerre civile, menacée par le virus, des centaines de milliers d'habitants cherchent à fuir pour l'Europe. Et puis, vers un été 2020, sans festival, rien, en tout cas jusqu'à la mi-juillet, les grands rassemblements annoncent leur annulation, les uns après les autres.
Et puis la météo pour demain, Patricia Charbonnier, vous nous annoncez du soleil avec des températures à la hausse.
Ah oui, des températures qui vont repartir à la hausse à partir de demain après-midi. Demain matin, ce sera encore assez frais, avec des gelées encore assez fréquente, notamment sur le Grand Est. Du plein soleil dès demain matin sur une bonne partie du pays, mais un ciel qui va se voiler dans l'après-midi sur le quart sud-ouest, avec un petit peu d'instabilité du côté des Pyrénées, donc quelques averses à caractère orageux, et un ciel plus nuageux près du Golfe du Lion, avec là le vent d'autant qui va souffler fort et se renforcer surtout demain après-midi pour atteindre les 100 km/h en rafale, et donc les températures encore fraîches en matinée. Moins 1 degré à Strasbourg, 4 degrés à Brest, 6 à Paris, 11 à Biarritz, mais donc des températures plus douces dans l'après-midi. Même chose encore dans le sud, jusqu'à 27 degrés au Pays Basque ou encore à Bordeaux, 23 degrés à Tours, 21 à Paris, 19 à Lille et 15 à Cherbourg.
Merci Patricia.
RTL Soir.
C'était forcément l'une des annonces les plus attendues hier soir. Après un mois sans école et alors que de nombreux parents s'étaient finalement presque résignés à terminer l'année scolaire en gardant les enfants à la maison, Emmanuel Macron en a surpris plus d'un hier soir.
À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées.
Réouverture des écoles le 11 mai, annonce du chef de l'État. Progressive, ça aussi Emmanuel Macron l'a dit, et ça fait toute la différence. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Du service politique de RTL, on sent bien qu'il y a ce soir une volonté de tempérer clairement les propos du chef de l'État, du moins de les expliquer davantage.
Oui, des ministres chargés de faire les sous-titres aujourd'hui, de nuancer, de tempérer avec toutes les précautions d'usage. Le message est clair, le 11 mai est un horizon, une option possible et certainement pas une date de rentrée des classes pour tous. Édouard Philippe l'a souligné cet après-midi devant les députés.
Le ministre de l'Éducation nationale a eu l'occasion de dire que ce déconfinement progressif, il se traduirait peut-être, par une forme adaptée de réouverture des écoles. Je ne veux sur ce point rien annoncé de définitif, puisque nous sommes en train de travailler.
Un Premier ministre très prudent qui ne tranche aucune question concrète. Comment, où, pour qui, port du masque obligatoire ou pas, tout cela sera décidé à l'issue d'une concertation de 15 jours avec les professeurs, les parents d'élèves, les mairies. C'était d'ailleurs l'idée d'Emmanuel Macron, selon l'un de ses proches, pouvoir moduler, adapter en fonction de l'avancée de la pandémie, voire de ne pas rouvrir les écoles le 11 mai si le virus n'était pas arrêté.
Merci Marie Mollet. Alors depuis l'annonce de ce retour à l'école, on l'aura compris, progressif, mais retour tout de même prévu dans un mois, de nombreuses questions ont été soulevées, pas mal d'inquiétudes aussi de la part des enseignants. Les conditions sanitaires seront-elles suffisantes? Avec nous, Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment, Marie, peut-on imaginer une rentrée progressive? Quel serait le mode d'emploi de ce retour à l'école?
Pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Il faut élaborer une méthodologie, dit Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale précise, ça passera forcément par de très grands aménagements. Alors, il se donne 2 semaines, on l'entendait, hein, 2 semaines de discussion avec les syndicats d'enseignants, les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les représentants des lycéens pour co-construire des formules. Ça pourrait être en effet différent d'une école à l'autre. Les mairies, les départements et les régions s'y seront associés parce que ce sont ces collectivités qui gèrent les locaux. Ce qui est certain, c'est donc que tout le monde ne rentrera pas le 11 mai. Hors de question d'avoir des classes bondées. Il faudra prévoir des petits groupes, adapter les emplois du temps sur des demi-journées par exemple, adapter les contenus d'enseignement, prévoir la désinfection des classes, mettre des masques à disposition, du gel hydroalcoolique. Le premier but est profondément social de cette reprise de l'école, dit Jean-Michel Blanquer. Et le président de la République a cité hier soir les élèves des quartiers Absolument. Populaires et ceux des campagnes pour qui se creusent les inégalités en cette période de confinement. Ils pourraient donc être ces élèves les premiers à retourner à l'école. Ce serait probablement plus simple à organiser en effet dans les petites écoles rurales ou dans les CP et CE1 dédoublés en zone d'éducation prioritaire où il n'y a qu'une 12aine d'élèves par classe.
Encore beaucoup de questions et de sujets à trancher en tout cas. Merci beaucoup pour ces précisions, Marie Guerrier.
Alors qu'en pensent les directeurs d'école, les proviseurs? Eh bien, on le saura tout à l'heure avec Philippe Vincent, il est secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Il sera donc avec nous vers 7h moins le quart. Vous le savez, et beaucoup d'entre vous d'ailleurs en souffrent, mais les visites dans les EHPAD sont interdites depuis le début du confinement et elles vont le rester jusqu'à nouvel ordre.
Une situation qu'Edvig, 79 ans, avait beaucoup de mal à supporter. Vous avez peut-être entendu son témoignage dans RTL Midi. Son mari Jean-Jacques vit dans une maison de retraite et pour garder le contact, elle avait trouvé la solution. Elle venait le voir tous les jours, derrière la vitre de l'établissement, jusqu'à ce que les gendarmes viennent la contrôler. Ça se passe à Groslay dans le Tarn et elle raconte son histoire à Patrick Hisson.
Moi j'étais devant la fenêtre, porte-fenêtre, qui était fermée. J'ai une ardoise blanche, comme ça j'écris en gros dessus des nouvelles de la famille pour le rassurer, que tout le monde va bien. J'avais dit dès le départ, j'ai dit écoutez, est-ce que je peux venir voir mon mari puisqu'on ne pouvait plus rentrer, ce qui était tout à fait normal. Est-ce que je peux aller à la fenêtre, faire un coucou? Mais bien sûr, donc il n'y avait aucun problème et j'y allais tous les jours à 4h. Et je vois deux gendarmes qui descendent. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous faites là? Ben écoutez, je fais une promenade, j'avais mes papiers et je passe faire un coucou à mon mari. Et je suis à même pas 500 mètres de la maison, quoi. Donc j'étais tout en règle. Alors non, je n'avais pas le droit d'être là. Ça fait 135 euros. Vous recevrez ça chez vous. Ah ben écoutez, maman, j'en étais retournée. Et puis, je le cache pas, je suis rentrée en pleurs, tout bêtement. Enfin, ça sert à rien. 135 euros, ça fait mal. Mais bon, et c'est injuste. Mais le fait, c'est de ne plus pouvoir y aller, quoi. Ça, c'est pareil pour les autres personnes, quoi.
Le témoignage, c'est touchant, hein, d'Edvig, 79 ans. Alors, il y a peut-être un espoir pour tous ses proches, toutes ses familles de résidents. Le beau temps pourrait permettre des visites en extérieur. Le CINERPA, le premier syndicat des maisons de retraite privées, le confirme ce soir. Écoutez sa déléguée générale, Florence Arnaise-Momet.
Avec les beaux jours qui sont là et le fait qu'il y ait des jardins dans les zones peu attaquées, on peut commencer des visites accélérées d'une demi-heure dans un espace très aéré, à 3 mètres d'écart, mais un échange et des familles aux anges, avec énormément d'émotions. Donc, c'est ce que nous voulons pouvoir faire dans les 4 à 5 semaines.
Voilà, d'ici 4 à 5 semaines, Florence Arnaise-Momet, déléguée générale du CINERPA, au micro de Jacques Serret.
Voilà, et d'ici là, peut-être un peu de discernement, hein, du côté des forces de l'ordre, je pense effectivement au témoignage d'Edvig. Ouais.
Ne comptez plus sur Amazon pour vous livrer votre nouvelle télé ou la dernière console de jeu à la mode, du moins pas d'ici la fin du confinement. La justice ordonne au groupe de restreindre son activité aux seuls produits dits essentiels. Guillaume Chiez, le tribunal de Nanterre, estime en clair qu'Amazon, dans ses entrepôts, ne protège pas suffisamment la santé de ses salariés.
Oui, le champ se rétrécit à 3 types de produits que l'entreprise a désormais le droit de distribuer. L'alimentaire, les produits d'hygiène et les médicaments, soit 10% seulement de l'activité du groupe. Des produits que le tribunal de Nanterre a jugés comme étant essentiels en cette période de confinement. Pour le reste, le multimédia, les livres, les vêtements par exemple, le tribunal a enjoint à Amazon d'arrêter toute livraison. Cette décision va dans le sens du syndicat Sud Solidaire qui estimait que le géant de la distribution ne mettait pas tout en œuvre pour protéger ses 10 000 salariés contre le Covid-19. La justice a précisé que cette sanction s'appliquera pour une durée maximale d'un mois, le temps que l'entreprise mène une évaluation des risques liés au coronavirus au sein de ses 6 entrepôts de stockage en France. Amazon dispose désormais d'un délai de 24 heures pour se mettre en règle, restreindre au strict nécessaire son activité, sans quoi le groupe devra verser une amende d'€1 million par jour de retard.
Merci Guillaume Chies. Cette information d'Arnaud Touche du service économie de RTL, l'opérateur allemand Flixtrain qui devait arriver en France l'an prochain suite à l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire décide de reporter sa décision. Flixtrain devait opérer des Paris-Lyon, Paris-Bordeaux ou encore Paris-Toulouse. Alors une décision qui n'aurait rien à voir avec le coronavirus. Le groupe allemand estime que les coûts des infrastructures en France, les gares et les droits de passage sont beaucoup trop chers pour proposer des tarifs attractifs.
RTL, il est 18h10, pandémie mondiale, mais solidarité planétaire. Cela dit, là aussi, elle est progressive.
Hier soir, Emmanuel Macron a réclamé l'annulation massive des dettes de l'Afrique pour aider le continent à faire face à l'épidémie. Les ministres des Finances du G7 se sont dit aujourd'hui favorables à une aide, mais à une suspension des paiements seulement, une suspension des paiements des intérêts de la dette, pas d'annulation prévue pour le moment. Dans ce contexte, l'appel à l'aide lancé par l'île de Malte qui exhorte l'Union européenne à agir de façon urgente en Libye afin d'éviter un désastre humanitaire. La Libye, ravagée par une guerre civile, on le sait depuis des années, mais qui n'est pas épargnée non plus par l'épidémie de coronavirus. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
650 000 personnes, le chiffre paraît démesuré, attendent sur les côtes libyennes de pouvoir rejoindre l'Europe.
Oui, essentiellement des gens venus d'Afrique subsaharienne et qui se retrouvent coincés dans ce pays, entassés dans des camps, dans des conditions souvent effroyables, parfois réduits même à l'esclavage. Juste en face de la Libye, la première côte européenne, c'est Malte. Et Évariste Barthelot, son ministre des Affaires étrangères, est très inquiet. Il voit s'accumuler les migrants et les dangers qui les guettent. Entre la guerre civile et le coronavirus, ils sont en effet des centaines de milliers à voir la mer Méditerranée et l'Europe comme leur unique issue de secours. Il y a là, dit ce ministre maltais, tous les ingrédients d'un désastre humanitaire majeur, un tsunami dans lequel peuvent être emportés des hommes, des femmes enceintes, parfois victimes de viols, et des enfants. Nous n'avons donc, ajoute-t-il, qu'une solution réaliste pour éviter cette crise humanitaire et pour sauver ces vies, c'est que l'Europe lance une mission immédiate en Libye pour apporter de la nourriture, des médicaments et des équipements de soins. Il évalue cette aide d'urgence à 100 millions d'euros, une aide qui pourrait inciter ces migrants à rester en Libye plutôt que de risquer leur vie en mer. Mais, conclut-il, il faut agir dès aujourd'hui, pas demain.
L'urgence en Libye. Merci Christophe Decroix, chef du service étranger de RTL.
Question, l'été 2020 sera-t-il un été sans festival? Le risque est grand, en tout cas on en prend le chemin.
Il n'y aura pas de grand rassemblement, quoi qu'il en soit, avant la mi-juillet. Au plus tôt, c'est ce qu'a annoncé hier soir le chef de l'État. Résultat, plusieurs gros événements ont déjà tiré les conséquences. Avignon, plus grand festival de théâtre du monde, est annulé. Pareil pour Solidays, 230 000 festivaliers qui ne se retrouveront pas cette année. Incertitude également sur la croisette. Cannes, le festival de Cannes avait déjà été reporté à la fin du mois de juin. Eh bien, les organisateurs annoncent à l'instant de nouvelles formes pour l'édition 2020. De nouvelles formes, on ne sait pas plus pour le moment. Perte sèche, en tout cas, pour les organisateurs, mais pas que. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Ces festivals font parfois vivre des territoires entiers qui seront cette année privés de recettes et dont le tissu économique risque d'en pâtir grandement.
Oui, une catastrophe par exemple pour Belfort, les Eurockéennes annulées, c'est 13 millions d'euros qui s'envolent pour le département. Jean-Paul Roland, le directeur du festival.
C'est 4000 personnes, des sous-traitants, des intermittents, etc. Le petit boulanger qui habite à côté du festival, et voilà, ben lui aussi il va être impacté, même si c'est pas de nos sponsors, même si c'est pas de nos mécènes. On est ce phare qui permet effectivement de temps en temps d'éclairer économiquement des territoires qui subissent aussi habituellement une crise économique.
Tenez, Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, le festival Beau Regard ne verra pas cette année ses 110 000 spectateurs. Pas de vieille charrue à Carhaix dans le Finistère, ni de francopholie à La Rochelle. Le Hellfest, 180 000 festivaliers, 440 000 litres de bière et une petite commune, Clisson, Loire-Atlantique, désormais fragilisée. Sylvie Chabanneau y est artisan taxi.
C'est une très grosse activité intense pendant plus de 3 jours. Ça s'étale même un petit peu au-delà. On comptait un peu sur une reprise d'activité fin mai, début juin. Et donc, le Hellfest en faisait partie, évidemment.
Et puis, allez, une bonne nouvelle. Je sais que vous aimez les festivals, Dominique. On a déjà une date pour le Main Square Festival du 2 au 4 juillet 2021, toujours au milieu des arbres de la très jolie citadelle d'Arras.
Ben voilà, ben
vous y serez.
On va prendre les billets.
Voilà. Grand amateur de rock, évidemment. Non?
Moi, oui, bien sûr.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci. Eh ben, du coup.
Merci, Julien Petra.
Vous reviendrez à 18h30, alors, Dominique. Parfait, pour nous rappeler les titres. Et nous, dans un instant, eh ben, on va s'interroger sur le tourisme, sur la restauration, sur l'hôtellerie. Un secteur qui ne reprendra pas le 11 mai. Alors, y a-t-il quand même une petite lueur au bout du tunnel? On en parle dans un instant avec le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoine. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir.